personnages autour de l'écriture. Depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. Voilà, j'avais envie de vous partager voilà, tout ce qui concerne ce symbole de l'esprit. Et puis, déjà pour moi-même, ça m'a déjà ouvert tellement de pistes que je me dis, mais c'est voilà l'écriture, et quand on commence à fouiller dedans, c'est presque infini, une chose en entraîne une autre. Et puis, voilà, donc je trouve déjà extraordinaire, déjà pour ma part. On a vu pas mal de thèmes, et puis depuis deux dimanches, on travaille tout ce qui est lié à l'huile et à l'onction. L'huile est un des symboles du Saint-Esprit, et depuis le démarrage de l'écriture, eh bien, voilà, cette onction d'huile est présente. Ça veut dire être mis à part pour Dieu, être consacré à Dieu. Tout ce qui est donné à Dieu, Dieu pose son onction dessus. Sa gloire, quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas recevoir l'onction de Dieu sans se donner à Dieu. Ça peut être parfois un pas de foi. Un petit peu difficile. Seigneur, je me donne à toi tout entier, tout ce que je suis, tout ce que je pense, tout ce que je dépense. Pouvoir partager avec le Christ Jésus, voilà l'ensemble de notre vie, le placer devant lui. Moi, j'ai toujours considéré voilà, que tous les biens matériels, j'en ai part, j'en profite, mais en même temps, ils ne m'appartiennent pas 100%. Ils appartiennent d'abord au Seigneur, voiture, maison, les relations, tout est conditionné par... Il faut que ce soit un échange, une relation avec le Dieu vivant. Pouvoir toujours, c'était dans une des prières, pouvoir dire merci à Dieu, avoir de la reconnaissance. Tout ce que Dieu nous donne peut être consacré à Dieu. Alors ça nous aide, parce que quand on a des choses à renouveler, si ça ne m'appartient pas vraiment et que ça appartient pas au Seigneur, il nous aide dans la vie courante à faire des bonnes affaires, à trouver plein de choses, y compris voilà, dans ce domaine matériel aujourd'hui qui prend tellement de place dans nos vies. Mis à part pour Dieu, consacré, donné à Dieu. Et Dieu verse l'huile de son onction. On a vu que c'était présent dès la Genèse, et qu'on peut consacrer des lieux, des choses, des objets. On l'a vu avec Jacob, onction sacerdotale sur les sacrificateurs, les prêtres, onction des rois, royale, messianique, au travers de David, onction prophétique, au travers de Moïse, Samuel, Élie, Élisée. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui l'onction messianique, l'onction de Jésus. On a vu qu'il y aura une sixième onction. L'Église a été remplie à la Pentecôte. Et depuis 2000 ans, Dieu verse son esprit, son huile, son onction sur l'Église. Et il y a une septième onction qui, je ne sais pas si elle n'a pas encore eu lieu, l'onction finale, la pluie de l'arrière-saison, juste avant le retour de Jésus. Il dit que là, ce sera un moment. Puis petit à petit, je me dis, tiens, le monde d'aujourd'hui commence à ressembler. Voilà, des choses qui déraillent, peut-être que c'est l'annonce voilà, d'un retour assez proche de Jésus. L'onction messianique de Jésus. Mais voilà, on démarre. Souvent, je me suis interrogé, et puis je me disais, mais Seigneur Jésus, comment tu as fait pour, en tant qu'homme, pour entrer et comprendre tout ce qui était le plan de Dieu pour ta vie? Et puis, ben, j'ai la réponse. Hein. Il a lu l'Écriture. Il l'a lu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je pense qu'il l'a prise par cœur. Tout l'Ancien Testament. Et puis qu'à tel endroit, il a dit, voilà, là ça parle de moi, ça parle de moi. Et je suis là pour accomplir cette parole. Psaume 23, on connaît tous ce psaume. Et puis on le lit, bon, c'est vrai que surtout pour nous. Mais c'est aussi un psaume messianique. qui nous parle d'une onction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que dans ce que Jésus a traversé, dans sa vie terrestre, dans son ministère de 3 ans, je pense qu'il a dû réciter ce psaume. Le psaume juste avant, le psaume 22, est un psaume assez terrible, hein, de quelqu'un qui est démembré, qui dit, voilà, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le psaume 23, voilà, même je disais, mon père est mon berger. Dieu, mon père, mon papa, est mon berger. Il me fait reposer, il me dirige, il me conduit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Jésus a traversé 3 ans sur terre de ministère où il a dû faire des chicanes, éviter les pharisiens, les sadducéens, les romains. Beaucoup de gens cherchaient à le attraper puis à le faire taire. Et puis à un moment donné, il a accepté la croix. Dans Isaïe 53, il dit qu'il l'a fait parce que le don de sa vie, il verra une postérité. Donc, même dans la vallée de l'ombre de la mort, voilà, je sais que tu es avec moi et tu continues à veiller sur moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ne pas avoir peur de ce qui est devant nous. Et plutôt que la fuite, pouvoir l'affronter. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais assez trouillard. Et puis il y a plein de choses. Si je pouvais les éviter, moi j'aime même pas trop les bagarres. Bon, j'ai vécu un shalom, donc j'en ai ma part. Et puis dans la cour de l'école, en pension, bon voilà, c'est les trucs de gamin. Puis après, voilà, j'ai jamais trop aimé ça. 20 ans, j'ai décidé d'être non-violent en me disant voilà, j'aime pas la violence. Et puis une fois dans la main de Dieu, je me suis dit voilà, mais il y a des choses. Plutôt que la fuite, il vaut mieux les affronter. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas forcément le plus facile. Pour pouvoir regarder ce qui est contre nous, entre Dieu face à face. Et dire, voilà, Seigneur, au travers de ça, mais tu es avec moi. Voilà, ce texte le dit, tu es avec moi. Donc, je vais continuer à avancer. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Christ Jésus a traversé toute sa vie d'enfant, d'homme, d'adulte, rempli de l'onction de Dieu. Et à chaque pas, il l'a toujours fait en lien avec ce que l'Esprit lui disait. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et comme nos jours n'auront pas de fin, c'est une maison éternelle qui nous attend. Parfois, voilà, je prends de l'âge. Et parfois, je me dis, waouh, en même temps, je vais partir. Et puis en même temps, waouh, tout ce que j'espère depuis un peu plus de 50 ans, wow, pouvoir être dans la maison de Dieu. Si je m'en vais, j'irai vous préparer une place. Wow. Quelque chose d'extraordinaire. On n'est plus étranger, on n'est plus orphelin, on n'est plus... Voilà, on est dans quelque chose d'autre. Psaume 45, je vous lis, voilà. C'est des psaumes que Jésus a lus. Parfois, je me suis demandé aussi, mais comment l'apôtre Paul a pu parler du Messie, du Christ Jésus, avec autant de profondeur. Et ces jours-ci, pareil, en relisant l'Écriture, je me suis dit, mais simplement en lisant l'Écriture et en prenant au sérieux tous ces passages messianiques. Et tout d'un coup, l'apôtre Paul a eu une vision claire de qui était le Christ. Et il en a écrit des phrases... Des textes extraordinaires, et les premiers apôtres, les premiers disciples ont repris ces textes de l'Ancien Testament. Psaume 45, les versets 3 à 8. C'est un psaume royal, psaume messianique. Le roi et sa beauté. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure, ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès, la casse parfument tes vêtements. Et puis on a là tout un psaume lié à un cortège, cortège royal, l'apparat d'un roi oriental. Est-ce que vous avez déjà dit au Seigneur qu'il est le plus beau? La première fois où j'ai lu le psaume, en même temps, je dis souvent, je ne suis pas très poète, c'est pas mon mode d'expression. Voilà, mais en même temps, c'est tellement beau pouvoir fermer les yeux et dire, oh, Seigneur Jésus, tu es extraordinaire, tu es beau, il y a quelque chose. Il y a une beauté, pas qu'une beauté physique. Une beauté morale, une beauté intérieure, profonde, quelque chose que l'on peut contempler, se nourrir. En même temps, il dit que c'est un guerrier. Ma prière en ce moment, c'est de dire, voilà, Seigneur, entre dans ton règne, voilà, puis debout à la droite du Père, viens remettre un petit peu d'ordre là, ici-bas, parce que ça, c'est le bazar. Les hommes n'en font qu'à leur tête, et puis ça part dans tous les sens, et voilà, c'est aussi lourd à porter. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Jésus a traversé ses 33 ans, revêtu de cette huile de joie. Et c'est au travers de tous ces psaumes qu'il a compris qui il était, ce que Dieu, dans quoi le Seigneur Dieu le conduisait. Psaume 89. Les psaumes, voilà, ces psaumes messianiques, ces psaumes royaux sont aussi un chemin pour découvrir qui est le Christ Jésus. Psaume 89, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. La force, sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur les fleuves. Il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma beauté. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, son trône comme les jours des cieux. C'est un psaume adressé à David, mais au travers de David, c'est aussi un psaume adressé au Christ Jésus, au Fils de Dieu. J'ai prêté mon secours à un héros. Tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. J'ai élevé, voilà, un jeune homme. Et j'ai trouvé David. J'ai trouvé aussi mon fils. Serviteur de l'Éternel. Celui qui va avancer, qui va aller jusqu'à la croix, qui va rendre complet l'œuvre de Dieu, le souhait de Dieu de toucher l'humanité. Et puis tous ces psaumes nous parlent, voilà, en deuxième rideau, de ce roi qui vient. Les nations lui seront soumises. C'est dur d'imaginer ça aujourd'hui. Quand des peuples, des hommes se battent, vont à gauche, à droite, et font des stratagèmes pour essayer de trouver la paix. On parle beaucoup de paix. Et puis, finalement, elle ne vient pas. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi de terre. Parfois, je me suis dit, mais voilà, l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a pu trouver toutes ces paroles de gloire ? Dans Éphésiens, Philippiens, Colossiens, quand il dit des phrases qui élèvent le Christ Jésus. Puis je me dis, ben voilà, en lisant les psaumes, tout d'un coup, Paul a compris, a cerné qui était le Christ. Et il a repris beaucoup de ce texte en disant, voilà, Dieu a fait de lui le premier-né. Psaume 133, alors pareil, un texte que l'on connaît, que l'on partage souvent. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un psaume qui nous parle de voilà, la communion fraternelle. Mais là où est Jésus, il y a de l'huile précieuse qui est versée. Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes quelque chose de précieux pour Dieu. Alors là, il nous a parlé voilà, de cette onction sur les sacrificateurs. L'Écriture, en deux, trois endroits, dit aussi, c'est ce que nous sommes. Nous sommes sacrificateurs, prêtres, nous sommes aussi quelque chose de royal. Nous avons changé de statut. Jean-Marc nous en parle souvent, puis en même temps, parfois David dit, voilà, je ne suis qu'un ver, je suis moins que rien. Voilà, et puis en même temps, David dit, voilà, tu es aussi quelque chose d'autre. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, voilà, descend sur nos vêtements comme une rosée. La rosée, c'est de la fraîcheur. En ce moment, il n'y a pas trop de pluie, j'attends la pluie pour mon jardin. Voilà, ça va, quand il fait 12 la nuit, 25, 30 la journée, voilà, j'ai les camélias, les hortensias, les rhododendrons, les feuilles sont un petit peu tout en bas, elles ont besoin de la rosée, elles ont besoin de fraîcheur. Nous pouvons nous ressourcer dans la communion fraternelle. Tous les derniers dimanches du mois, donc dimanche prochain, on pourra partager un repas. Voilà, apprendre à se connaître, à partager, à porter nos fardeaux les uns les autres. C'est ce à quoi nous exhorte le Nouveau Testament, porter les fardeaux les uns des autres. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction de la vie pour l'éternité. Dans tous nos partages, Dieu envoie sa bénédiction. Parce qu'il reconnaît là l'esprit de son fils. Il dit, ah ben voilà, mes enfants sont assemblés dans le nom de mon fils. J'envoie ma bénédiction. On saute dans Ésaïe 61. Là, on va entrer dans cette onction que Jésus a reçue. Pareil, donc, quand Jésus a lu la loi, les prophètes, il s'est approprié tous ces textes messianiques, tous ces textes qui parlent du roi, du Seigneur. Ésaïe 61, les quatre premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est un texte qui est triple. C'est un texte qui parle, voilà, aussi par rapport à, au roi qui va régner sur, sur Israël, pour renouveler Israël. C'est aussi un texte messianique, et Jésus se l'est approprié. Il y a juste une phrase, voilà, qui parfois me dit, tiens, c'est un peu un jour de vengeance de notre Dieu. Dans le même texte, il y a le premier, la première venue de Jésus, il y a aussi le deuxième. Quand il revient, il va mettre les nations au pas. Et elles ont besoin, elles ont besoin. Il y a des hommes à l'heure actuelle qui pensent être Dieu. Hein. Ce sont presque des figures d'Antichrist. Parce qu'ils pensent avoir la sagesse, là. Puis l'autorité pour régner sur le monde. Publier une année de grâce de l'Éternel. Cette année, elle dure déjà depuis 2000 ans. C'est une séquence. Publier une année de grâce de l'Éternel. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Tout est accompli. Grâce de Dieu est accomplie. Tous ces jours, un jour de vengeance de notre Dieu. Donc un jour, en dialoguant avec certains, parfois qu'il y avait un arrière-fond de l'islam musulman, là c'est ici. Là. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. On s'arrête surtout à ce texte. Alors ce texte voilà, nous parle aussi d'une huile de joie au lieu du deuil, d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dans un psaume, David dira « Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Qui me redonnera de l'espoir ?» Nous pouvons avoir cette onction d'une huile de joie. Première fois que j'étais confronté à cela, quand je suis né, ma maman avait 40 ans, quand mon père est décédé, j'en avais 14, donc ma maman avait 54 ans, elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Elle a travaillé comme femme de ménage au siège de coopérative de Lorient. À partir du jour où je suis né, je ne suis pas sûr qu'elle était heureuse avec mon père. Je pense que si j'étais pas né, elle l'aurait quitté pour X raisons. Il était assez odieux dans différents domaines. 1966, elle s'est fait baptiser d'eau, après avoir suivi le Seigneur pendant 8 ans, mais sans vraiment... Voilà, comme sympathisante, elle ne comprenait pas tout. À l'époque, elle n'avait pas le droit d'aller au culte le dimanche matin parce qu'elle n'était pas baptisée d'eau. Certaines églises, c'était un peu comme ça, c'était assez strict. Moi, je l'ai accompagnée souvent dans tout plein de réunions. Et puis, sur Pont-l'Abbé, rassemblement de gitans, elle a été baptisée d'eau par Loulou Meyer, un frère qui était assez extraordinaire. Et il a prié pour elle. Et il a prié de manière prophétique pour qu'elle reçoive cette onction d'huile de joie. Et quelque chose de nouveau est entré en elle. Ça ne veut pas dire que tous ses soucis étaient laissés de côté. Elle en a connu d'autres. Déjà, finir d'élever son fils qui était un sale gosse. Mais il y a eu quelque chose de nouveau. quand les choses de la vie, voilà, ont déstructuré des choses intérieures, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand mon père est décédé, pour X raisons, je crois que ça m'a laissé un peu froid. Et puis en même temps, le lendemain de son décès, moi qui étais sale gosse, j'ai dit à ma mère, le Seigneur ne te laissera pas tout seul. Une parole prophétique pour ma mère, alors que j'étais complètement déconnecté des choses de Dieu. Et le Seigneur a été fidèle. Non seulement elle a manqué de rien, mais encore elle a mis de l'argent de côté qui a servi à son sale gosse plus tard. Dieu peut revêtir nos vies d'une huile de joie, même si on a traversé des épreuves, des moments difficiles, et même si des choses ont été déstructurées dans nos vies. Je pense que par la résurrection, Jésus était rempli d'une huile de joie, parce qu'il a vu une postérité. De l'eau, du sang qui ont coulé sur la croix, sont nés des êtres humains qui ont été réconciliés avec Dieu. Des millions d'êtres humains, voire des milliards. Et quand il était sur la croix en souffrance, je pense que la souffrance était réelle, c'était pas un jeu vidéo, c'était pas virtuel. Là, il a pu fermer les yeux et dire « Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes ?» Puis en même temps, il savait que ça, comme un pépiniériste hein, qui élève des milliers de fleurs, il savait que ça allait donner quelque chose d'extraordinaire, des milliers de fruits. Et que sa vie donnée allait nourrir des hommes, des femmes, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé, donné pour vous. Pour que nous ayons une onction, une huile de joie sur nos vies. On lit dans Luc, chapitre 4, puisque ce texte est repris. On a d'abord le baptême de Jésus. Jésus fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Cette onction de l'Esprit le conduit en face de son adversaire. En face de mon adversaire, tu dresses une table. La confrontation, l'opposition, voir les choses en face. Jésus savait ce vers quoi il allait. Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ma première année de conversion a été des combats spirituels. Pas 24 heures sur 24, mais presque. Bon, ça m'a un petit peu guéri. Je n'ai pas toujours compris tout ce qui m'arrivait. Mais j'avais pris une décision le jour où j'étais touché par le Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours, je lirai l'Écriture et je vivrai avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Quel qu'en soit le prix, que je comprenne, que je ne comprenne pas, le problème, ce n'est pas moi, c'est lui. Je veux lui appartenir, je veux être à lui, je veux marcher avec lui. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour, il enseignait dans la synagogue, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon la coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le texte s'arrête là. On n'a pas le jour de vengeance. C'est un deuxième temps. Il viendra après. Jésus ne le reprend pas. Il va le reprendre quand il va se lever de la droite de Dieu, puis quand il va mettre les nations au pas. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ils lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et déjà, il y a un combat en Israël. C'est qui cet homme? C'est qui ce Jésus de Nazareth? C'est qui ce fils de Marie et de Joseph? On le connaît, c'est un charpentier. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Aujourd'hui, cette parole d'Ésaïe que vous venez d'entendre est accomplie. Certains se demandent, mais pour qui il se prend? Texte messianique. Pour Israël, un jour... Ce texte s'appliquera aussi à Israël pour un renouveau. Il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Combien de paroles de Dieu se sont accomplies dans nos vies? Pouvoir dire, aujourd'hui, cette parole que tu m'as donnée s'est accomplie. Moi, j'en ai un paquet. Et j'espère que j'en ai encore. L'Esprit du Seigneur m'envoie. Onction messianique. Celui qui va révéler le Dieu vivant. On lit dans Jean 19, le verset 30. Un verset très court, là aussi, qui peut nous aider dans notre prière. Jean 19, verset 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien sûr, la croix est un instrument de torture et de mort. Mais Jésus, j'allais dire, est mort de lui-même, par lui-même. On met du temps pour mourir, puis à un moment donné, il a dit ça à son père, voilà. Je te remets mon esprit, parce que la raison pour laquelle je suis venu en simple homme est accomplie. En même temps, ce n'est pas une partie de plaisir. Sur la croix, à un moment donné, voilà, on s'affaisse, c'est pour les ranimer, les soldats trempent des éponges dans du vinaigre, ça doit être assez désagréable. Et là, Jésus sait que, voilà, il dit. Et puis Jean, et puis tous les auteurs du Nouveau Testament, souvent vont dire, voilà, cette parole de l'Écriture s'est accomplie dans le Christ Jésus, dans le Messie, dans le Christ. On avait aussi au verset 24, hein, on ne déchire pas cette tunique, tirons-la au sort, cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Toutes ces années de ministère de Jésus, il a endossé le costume de l'Écriture. Il a endossé l'onction qui est dans l'Écriture. Et tous ces textes qu'il connaissait par cœur, il a dit au Père, « Accomplis ta parole au travers de moi, je suis la parole. » Tout est accompli, baissant la tête, il rendit l'esprit. On est encore dans ce chapitre de Jean, verset 36. « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » Ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. C'est dans Zacharie. C'est toutes les paroles prophétiques, messianiques dans l'Ancien Testament, toutes se sont accomplies en Jésus. Est-ce qu'à notre tour, est-ce qu'à mon tour, je peux dire « Seigneur, viens accomplir ta parole dans ma vie. Je veux lire, je veux m'approprier, je veux comprendre ta parole, je veux la confesser, je veux la serrer sur mon cœur. » Et voilà, pouvoir dire à notre tour aussi que l'Écriture soit accomplie. C'est un privilège aussi de pouvoir entrer dans cette onction messianique. Jésus a traversé tout cela. Je suis reconnaissant au Seigneur que l'apôtre Paul ait repris aussi tous ces textes et puis voilà, qu'il nous donne une perception de la profondeur de qui est le Christ Jésus. Page après page de l'Écriture, j'essaie de reprendre tous les noms par lesquels Dieu, Père, Fils et Esprit est défini. Ah, c'est extraordinaire. Quelle richesse. On a chanté tout à l'heure en ton nom, dans le nom de Jésus. Un nom qui est extraordinaire. Un nom qui accomplit la parole de Dieu. Jésus savait que tout était déjà consommé. C'est-à-dire quand tout est consommé, le plat est fini. On a pris du pain, on a de la sauce. Son chemin sur la terre était fini. Et il s'est fini à la croix. Ce n'est pas une fin. C'est un chemin de vie. Sur la croix, il a libéré quelque chose d'extraordinaire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Notre Père qui est aux cieux, voilà que donne-nous notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça aussi, c'est un accomplissement. Beaucoup d'accomplissements dans nos vies ne viennent pas parce qu'on a du mal à pardonner. Le pardon ouvre une onction de vie au-delà de ce que l'on peut souhaiter connaître. Première année de vie chrétienne, j'en ai vécu quelques-unes. Pouvoir déposer ces fardeaux du non-pardon, d'opposition, d'incompréhension, de pouvoir réparer le passé, pouvoir arrêter de coller sur le dos d'un tiers tout ce qui nous arrive. C'est pas moi, c'est l'autre. Enfin, c'est telle circonstance et telle personne qui m'empêche de vivre. Non. Seigneur, je pardonne. Je remets la tête, je veux passer à autre chose, je veux construire sur un autre fondement. Tout est accompli. Mère Céleste, merci pour tout cet enseignement de ta parole sur cette onction, cette mise à part. Merci de verser sur nos têtes cette huile, cette onction de l'Esprit. Merci parce que depuis 2000 ans, cette source est ouverte pour chacun d'entre nous. Merci de souffler sur chacune de notre vie et de dire, voilà, mon esprit. Merci parce que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par ton esprit que nous pouvons avancer dans la vie. Aide-nous à mieux comprendre, à mieux accepter, à mieux partager, à mieux confesser ta parole. Merci de construire notre vie spirituelle, voilà, jusque dans la vie éternelle, avec cette source qui est ta parole. Amen.